remercie de votre fidélité, chers amis auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir comme tous les dimanches entre 17h30 et 18h sur les ondes de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, 2 juin, en cette fête de Sainte Blandine, Justina, notre spécialiste en théologie, nous parlera de l'Eucharistie. Alors hélas, de façon trop courte, car le sujet est vaste. Bonjour Justina.
Bonjour.
Nous avons aujourd'hui un auditeur de renom et j'en suis très flattée. Roland Hureau est notre invité. Bonjour cher monsieur.
Bonjour France.
Vous avez sorti chez Desclée de Brouwer il y a déjà 3 ans un magnifique livre sur Jésus, dont le titre « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». On pourrait penser que c'est un énième livre sur Jésus et que nous n'y trouverons rien de neuf. Eh bien non, pas du tout. Votre travail d'historien nous permet d'appréhender de nouvelles choses sur Jésus et j'ai beaucoup apprécié la progression du livre. Nous en parlerons tout à l'heure et j'en suis ravie. Alors Justina, l'Eucharistie, du latin Eucharistia, action de grâce, lui-même du grec ancien Charistia, reconnaissance, action de grâce. Votre exposé, chère Justina, portera sur ce sacrement qui est le cœur des catholiques. En effet, un croyant ne peut vivre sans, n'est-ce pas?
Bien sûr, bon, pas que les catholiques romains, mais les orthodoxes aussi. Oui. Je préciserai juste que Eucharistie en grec, ça veut dire surtout remerciement ou aussi rendre grâce, parce que c'est aussi, le mot, c'est aussi le mot qu'on emploie dans le grec moderne, Ευχαριστώ, pour dire merci, tout simplement.
Très
aussi.
Beau.
Et il y a cette particule charis qui veut dire les dons, comme les charismes, ainsi de suite. Mais nous sommes le 2 juin et comme je l'avais promis, puisque c'est la fête de l'Eucharistie dans l'Église catholique romaine, nous allons en parler. Alors, je reconnais que le sujet n'est peut-être pas aussi complexe que la Trinité, mais c'est un sujet délicat pour moi. D'une part, nous devons en parler car c'est le but de l'existence même de l'Église. Et d'autre part, c'est un mystère qui, normalement, doit rester un mystère connu uniquement des fidèles. Car dans la prière, par exemple, orthodoxe récitée systématiquement avant la communion, on dit « À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi dans ton royaume. » Aujourd'hui, et je ne suis pas la seule, on est dans cette nécessité de mettre tout cela de côté, car les années de silence ont fait que nous ne savons plus du tout en parler. L'Eucharistie est un instrument de salut par excellence. S'il existe des églises en tant que bâtiment, c'est avant tout pour protéger l'assemblée eucharistique contre le vent et la pluie. Si le Christ est Dieu et qu'il s'est fait homme sans cesser d'être Dieu, s'il est mort et ressuscité et qu'il nous a donné sa chair et son sang, ce n'est pas pour rien. N'oublions pas que tout ce que nous avons déjà évoqué sur l'anthropologie biblique, l'être humain déchu a besoin d'un remède ultime qui guérit le corps, l'âme et l'esprit et qui assure une connexion profonde au Christ par toute notre nature. Autre moment important, l'Eucharistie nous relie aussi entre nous, en tant que rassemblement des fidèles, en un seul corps, c'est-à-dire l'Église.
L'Église, oui.
C'est bien pour cela que les chrétiens s'appellent frères et sœurs entre eux. C'est comme dans le livre de la jungle de Kipling, « Nous sommes du même sang, toi et moi ». C'est le sang du Christ qui circule dans nos veines. L'Église est le corps du Christ et pour faire partie d'un corps, même en biologie, il faut être lié au réseau sanguin. Et si, c'est ce que je n'espère pas, demain je me coupe le doigt complètement, ce doigt n'est plus relié à mon réseau sanguin, donc ce n'est plus mon doigt. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi en dehors du corps du Christ, soit par coupure, péché mortel chez les catholiques, péché tout court chez les orthodoxes. Et si ce doigt n'est pas mis au congélateur, inutile d'aller aux urgences, il n'y a plus rien à faire. Oui. Heureusement, il y a la solution comme les urgences, c'est la réconciliation ou la confession. D'ailleurs, il n'y a pas de lien direct entre la confession et l'Eucharistie, me diriez-vous, mais dans certains cas, c'est nécessaire, comme dans notre histoire du doigt coupé. Après, la confession, comme vous le savez, telle qu'elle est apparue avec le temps. Initialement, c'était vraiment la réconciliation qui a été mise en place au IIe siècle suite aux persécutions des chrétiens en Afrique du Nord. La particularité de ces persécutions était telle qu'on les forçait à renier le Christ sous torture. Donc il y a eu beaucoup de survivants qui ont renié le Christ. Et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Est-ce qu'on les accepte dans l'Église? Mais comment? On ne peut pas les rebaptiser, il n'y a qu'en baptême. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et c'est comme ça que la réconciliation en tant que repentance déjà publique a été mise en place. Et ces personnes-là attendaient à l'entrée de l'église, ne pouvaient pas prier pendant la liturgie des fidèles et ils étaient réintégrés avec le temps. Avec l'apparition du monachisme et la pratique de révélation de ses pensées à son père spirituel, finalement la confession est devenue ce qu'elle est devenue, que ce soit dans le monde oriental et dans le monde occidental. Mais il n'y a pas de lien direct parce qu'aujourd'hui, surtout bon, dans certaines églises orthodoxes, mais je sais que chez certains catholiques aussi, c'est presque un laissez-passer pour l'Eucharistie, ça dépend des communautés bien entendu, mais historiquement ça ne l'est pas. Mais quand même, pour être chrétien, il faut faire partie du corps du Christ. Sinon, il suffirait de prier chez soi, dans son coin, et l'existence de l'Église n'aurait aucun intérêt, mis à part discutailler avec ses copains, ce qui nous différencierait peu d'un groupe de reconstitution médiévale ou d'un parti politique. La perception de l'Eucharistie en Orient et en Occident part d'un principe commun, mais diverge quand on plonge dans les nuances. Dans l'Église catholique romaine, durant la messe, et plus précisément la consécration faite par le prêtre, qui agit à ce moment-là in persona Christi, se produit la transsubstantiation, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, afin que le clergé et les fidèles puissent prendre part à ce sacrement et renouveler le lien avec le Christ et son corps, l'Église. Au sein de l'Église orthodoxe, pendant la divine liturgie, puisque les fidèles se rassemblent en Église et le prêtre ne fait que l'invocation de l'Esprit-Saint sur nous et sur les dons que voici, on appelle ça l'épiclèse, c'est, attention, c'est très fin, c'est le corps et le sang du Christ qui deviennent le pain et le vin. Il est vrai qu'en général, nous simplifions ces aspects quand nous discutons avec nos frères catholiques et on dit « oui, oui, nous avons la présence réelle ». Car oui, nous ne sommes pas sur les positions des réformés où l'Eucharistie n'est qu'un symbole et l'accomplissement d'un commandement, un changement pour nous a bien lieu, mais nous ne l'affirmons pas que le vin et le pain perdent leur propriété. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas de rite d'adoration eucharistique chez les orthodoxes. Et pourtant, nous disons avant chaque communion, je crois encore que ceci est ton corps très pur et que ceci même est ton sang précieux. Cette perception subtilement différente entraîne une perception différente sur la nature du clergé et la perception de qu'est-ce que c'est que le clergé, qui existe pourtant bel et bien dans les deux cas. On n'est pas du tout autoproclamé chez les orthodoxes, les ordinations se font, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, et là, pardonnez-moi, je suis obligée de pousser les choses un petit peu à l'absurde pour que la différence soit claire, nette et précise. Quand un prêtre catholique romain agit in persona Christi, il a déjà l'obligation de le faire tous les jours ou de concélébrer la messe tous les jours. Sinon, il manque à ses obligations de prêtre. Ce n'est pas le cas du prêtre orthodoxe. Il n'a pas l'obligation journalière, mais en plus, normalement, il n'a pas le droit de célébrer quand il est tout seul. Deuxièmement, quand on ordonne un prêtre catholique, alors à ma connaissance, je peux me tromper, en général, on l'ordonne d'abord et ensuite on discute du lieu d'affectation. Quand un membre de clergé orthodoxe est ordonné, même en lecteur, il n'est jamais ordonné dans la nature, il est ordonné directement affecté dans une paroisse. Et qu'est-ce que cela nous fait ? C'est que le point de vue sur l'Eucharistie et qu'est-ce qui se passe pendant la consécration nous donne finalement l'ecclésiologie qui va avec. Quand nous avons une approche quelque part à continuer cette tradition lévitique, comme on peut le voir chez les catholiques romains, c'est une chose. Chez les orthodoxes, c'est assez subtil, parce que nous avons des penseurs orthodoxes qui ont une des positions très proches des catholiques romains, qui vont dire que le prêtre, c'est l'icône du Christ pendant l'office. Mais l'icône, c'est une représentation, c'est pas comme si, entre guillemets, il se faisait posséder par le Christ. Et en plus, il y a cette épiclèse, et finalement, le rôle du prêtre orthodoxe et de l'évêque, c'est d'invoquer l'Esprit-Saint sur nous et sur les dons que voici. Donc finalement, c'est une personne qui est mandatée pour invoquer l'Esprit-Saint en présence de la communauté. Ce qui, comment dire, malgré le poids de la tradition, théologiquement, ça nous ouvre une piste pour le clergé féminin un jour chez les orthodoxes. Je ne dis pas qu'il faut pas, je dis juste que théologiquement, du côté orthodoxe, à cause du fait que le in persona Christi n'est pas formulé, il y a cette probabilité, je dirais, théologique, mais après, il y a tout le poids de la tradition historique qui dit que ça n'a jamais existé. Il y a des pensées qui disent que la femme ne peut pas ceci, ne peut pas cela. Je ne vais pas parler de ça, mais voilà. Tout ça pour dire que la perception de l'Eucharistie, finalement, va jouer sur d'autres aspects, y compris l'ecclésiologie, l'organisation de l'Église et beaucoup d'autres choses.
Très bien, merci beaucoup Justina. On reparlera peut-être un jour de la transsubstantiation, mais sujet vaste. Alors à présent, nous allons écouter « Aller à Jésus Eucharistie » par le groupe de prière Abba, tiré de l'album « Confiance, lève-toi, il t'appelle » chez eMusician Digital AJ.
Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie.
Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui.
Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits.
Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Roland Hureau, merci de venir nous parler de votre très intéressant ouvrage sur Jésus. Comme je disais, c'est un honneur de vous accueillir. Vous connaissez bien les lieux. Alors, vous êtes agrégé d'histoire, ancien diplomate, membre de plusieurs cabinets ministériels, dont celui du très regretté Philippe Séguin. Alors, je ne vais pas détailler votre CV très riche. C'est l'historien que je suis contente d'accueillir aujourd'hui. Nous évoquerons donc aujourd'hui les preuves de l'existence de Jésus. Vous vous complétez bien avec Mathieu Lavagna, que j'ai eu la joie d'accueillir la semaine dernière, car vous y apportez le regard et la crédibilité de l'historien. Nous allons donc aller à la source. Vous le dites très clairement dans votre livre, n'oublions pas que la première source est celle des quatre évangiles, n'est-ce pas ?
Oui, absolument.
Avec l'originalité de Luc qui s'adresse à Théophile. Qui est ce Théophile ?
On ne sait pas trop.
Oui, hein.
Soit c'est un personnage, un interlocuteur inventé pour la circonstance, soit c'est un vrai Théophile. Enfin, Théophile, ça veut dire l'homme qui aime Dieu. Donc, ça peut être un personnage abstrait. On ne sait pas. Hein, personne ne sait. Ou un ami de
Luc.
De Luc.
Alors, que dites-vous à ceux qui déclarent que les noms ne sont pas identiques, qu'il n'y a pas de fiabilité, que...
En réalité, je maintiens qu'il n'y a que quatre textes véritablement sérieux.
Oui.
On parlera tout à l'heure des apocryphes sur lesquels les gens fantasment, mais qui ne sont pas des sources très crédibles. Alors, il y a des petits détails qui diffèrent de toutes sortes. Et les phrases sont répétées, les paroles de Jésus sont répétées, mais il y a souvent des petits changements.
Oui.
Mais ce que je dis, c'est que les quatre auteurs s'étaient concertés pour tromper le monde, ils auraient évité ce genre de divergences, qui ne sont pas vraiment des contradictions, on peut toujours trouver une explication, même s'il est un peu ardu. Par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, on vous dit que Jésus, pour fuir Hérode, Joseph et Marie sont partis en Égypte. Et puis qu'ensuite, ils n'ont pas voulu revenir en Judée parce qu'il y avait un tyran qui était le fils d'Hérode.
Oui.
Et que donc, ils sont allés se réfugier un petit peu en Galilée. Luc dit autre chose. Il dit qu'ils étaient originaires de Galilée. Ils sont allés à Jérusalem pour un recensement, oui. Et puis qu'ils sont rentrés chez eux. Alors, c'est pas tout à fait opposé. On peut dire qu'ils sont allés se réfugier en
Galilée. L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, absolument. Mais en fait, ce sont deux présentations différentes. Or, des divergences de ce genre, on en trouve beaucoup. À la résurrection, selon certains évangélistes, il y a un ange, selon d'autres, il y en a deux. Bon, là, on est en dehors de l'histoire stricte, puisque c'est le récit de la résurrection, mais il faut en exiger aussi de la cohérence. Dès le IIe siècle, d'ailleurs, il y a un texte d'un certain Celsus, qui était antichrétien, qui souligne cette divergence, et qu'il dit, on ne comprend rien, ils se contredisent, etc. Bon, on peut dire que s'il y en a deux, il y en a au moins. Mais globalement, il y a une convergence. Globalement, à aucun moment, on a l'impression qu'il parle d'un personnage différent. Mm-hmm. Ça me paraît certain.
On retrouve
certain.
À chaque fois Jésus. Oui,
oui, oui, oui. Il n'y a pas de... On pourrait très difficilement dire, ça c'est une vision de Jésus, ça c'est une autre vision de Jésus.
C'est le même homme qu'on retrouve à chaque fois.
Oui, 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 je le crois, je le pense. Oui. Même si... Quelques-uns apportent des nuances pour l'évangile selon saint Jean, mais ça ne me paraît pas très consistant. Alors, quant aux apocryphes, ils sont plus tardifs. Admettons, nous y reviendrons si vous le voulez bien, que les quatre évangiles datent du milieu du 1er siècle.
Oui. Parlons-en tout de suite.
Oui. Longtemps, on a cru qu'ils étaient beaucoup plus tardifs. Et on avait l'air ridicule si on croyait qu'ils étaient antérieurs à l'an 90, donc ça faisait déjà 60 ans de différence.
Oui.
Aujourd'hui, les exégètes qui en parlent ou le grand public tendent à se rapprocher tout de même des événements avec quelques arguments. Il y a un Claude Tresmontant et l'abbé Carmignac qui avaient beaucoup insisté pour que rapprocher la date des évangiles des événements qui...
En l'an 50, c'est ça ?
Autour de l'an 50, mais peut-être 60, certains en 50, d'autres en 60. Enfin, on considère que celui de Saint-Jean est le dernier, quoique d'autres ont pensé que ça n'était pas, mais moi je crois que c'est le dernier, et celui-là arriverait vers 60, 62 ou 3. Alors, les arguments, c'est d'abord qu'en 70, Jérusalem a été complètement détruite et rasée par les Romains. Or, on ne trouve pas trace de cet événement, sauf par une prophétie de Jésus, mais qui n'est pas aussi précise. On vous parle des lieux, de la porte des brebis, de la piscine de Bethsaida, etc., comme si on y était. Hein, comme si on y était. À aucun moment, il n'y a une incise pour dire que ces lieux-là étaient comme ça, mais n'y sont plus. Tout laisse supposer que quand ces textes ont été rédigés, ils étaient encore debout. Jérusalem était encore debout, donc c'est avant 70.
Oui,
bon, c'était sans doute pas en pleine guerre civile, 66-70, donc c'est avant. D'accord. Mais peut-être pas longtemps avant. L'autre argument, c'est que si vous retardez trop les évangiles, vous vous trouvez les lettres de saint Paul
comme
le document le plus ancien. Et c'est un document. Et on connaît les dates. Alors, pour le coup, c'est entre 50, 47, 48 et 60, 61. Alors, c'est un peu bizarre que les évangiles, qui sont des récits apparemment simples, en fait, plein de subtilités, mais qui sont, disons, la langue de tout le monde, soient arrivés après les lettres de saint Paul, qui sont assez sophistiquées, souvent très sophistiquées, sur le plan de la... théologie morale ou de la théologie tout court, qu'on ait commencé par le compliqué pour aller ensuite au plus simple. C'est une deuxième explication. Bon, il y en a d'autres. Je crois qu'on aurait trouvé des petits fragments de l'évangile, de certains évangiles, celui de Saint-Luc, je crois, dans les grottes de Qumran. Mais c'est juste deux lignes et mangé par les mythes. Mais enfin, ça existe.
Et que pensez-vous de la source Q ? La fameuse source Q ?
La source Q, c'est rien du tout. Q, ça veut dire en allemand, ça se dit source. C'est une source, ça se dit Quelle en allemand, donc on appelle la source. Si ces évangiles ont été écrits vers 50, entre 30 à 50, Il s'est passé des choses. D'ailleurs, Saint Luc le dit lui-même, il y a beaucoup de récits qui circulent. Et puis d'autre part, quand vous prenez les trois premiers évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques, il y a des épisodes qui se ressemblent, mais qui ne sont jamais racontés exactement pareil, mais ils se ressemblent. On a l'impression qu'ils ont, ce sont soit, si c'était copié, ils seraient pareils mot à mot, mais ils ont pu puiser à une ou plusieurs sources qui étaient dans l'air, orales ou peut-être écrites d'ailleurs. Et cette source antérieure aux quatre évangiles est commune aux trois synoptiques. Bon, les Allemands ont trouvé le nom, ont trouvé malin de l'appeler la source Q, mais ça ne veut rien dire.
C'est plutôt, est-ce que cette hypothèse de cette source est toujours viable ou plus trop maintenant?
Ce qui est viable, c'est qu'il y a eu d'autres écrits avant les évangiles. Ça, c'est Saint-Luc qui le dit. Saint-Luc, il laisse même entendre qu'il y a des récits de ce qui est arrivé à Jésus qui circulent partout. Qui circule partout, et moi j'ai voulu y mettre de l'ordre. Alors, est-ce qu'il y avait une source plus particulière? J'en suis pas sûr, non, j'en vois pas de preuves. Par contre, il y avait des récits qui circulaient, il les a confrontés, il dit qu'il avait un travail d'historien, Saint-Luc, les deux autres ne le disent pas, mais ils ont fait un travail sérieux à partir de sources. Mais pour ce qui est de l'enfance de Jésus, je crois que la source principale, c'est Marie.
Oui.
Parce que Joseph est mort. Siméon est mort.
Vous dites que Joseph aurait été l'oncle de la Vierge Marie? J'ai lu ça.
Certains le disent, oui. Selon le droit juif, quand il y a une fille qui se retrouve toute seule, c'est pas n'importe qui va l'adopter. Il faut que ce soit dans la famille, ne serait-ce que pour des raisons patrimoniales. Ouais. Parce que c'était vraiment aussi riche qu'on le dit, c'est-à-dire fille de Joachim et d'Anne, qui sont dans les apocryphes. Alors, dans les apocryphes, ils sont présentés comme des gens importants. Et évidemment, l'entourage ne voulait peut-être pas que cet héritage
disparaisse
à n'importe qui. Mais ce sont des hypothèses que j'ai lues ici ou là, que j'ai rapportées, je n'y tiens pas. D'accord. Alors, donc pour la date, moi je crois ça, mais il y a beaucoup de gens qui vous diront non, c'est pas vraisemblable. Il faut qu'ils expliquent quand même. Alors, un autre exemple très caractéristique, c'est Saint-Luc a écrit d'abord, c'est lui qui nous le dit, l'évangile selon Saint-Luc, et ensuite il a écrit les Actes des Apôtres. Qui se termine, les derniers chapitres des Actes des Apôtres, c'est pratiquement un journal de bord de Saint Paul étant transporté de Jérusalem à Rome. Alors je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait, parce qu'il y a eu un naufrage, donc comment le journal a persisté. Je pense qu'en fait il savait par cœur ce qu'il avait déjà écrit. Et donc il arrive à Rome. Et ensuite, il écrit les Actes des Apôtres. Donc, il écrit les Actes des Apôtres, qui se terminent ex abrupto au moment où Paul arrive à Rome, où l'Évangile d'aujourd'hui raconte d'ailleurs qu'il s'est installé dans un appartement à lui et il recevait beaucoup de monde. Il n'a peut-être pas le droit d'aller prêcher sur les places publiques. Mais alors, si véritablement Saint-Luc a écrit 15 ou 20 ans après, pourquoi n'a-t-il pas raconté l'histoire de saint Paul jusqu'à son apothéose, c'est-à-dire son martyr? C'est un argument qui a été sensible à des tas d'exégètes hypercritiques, comme il y en avait beaucoup
en
Allemagne.
Mais si je ne me trompe pas, en plus, l'évangile de Luc se termine pile poil, je crois bien, à l'Ascension, et la suite, c'est la Pentecôte au début des Actes. Donc il y a comme un suivi. Comme si, ça représentait deux tomes, si je ne me trompe pas.
Il le dit d'ailleurs, il le dit. Hein. Je vous ai déjà raconté, cher Théophile, la vie de Jésus. Maintenant, je raconte les commencements de l'Église. Ce n'est pas...
Alors, il nous reste peu de temps, mais dans les sources, pour vous, c'est une vérité, parce que vous parlez de ces Juifs très pieux. Qui ne voulait pas colporter de faux témoignages.
Oui,
et pour vous, c'est un argument essentiel. Alors, il nous reste
les arguments,
deux minutes.
D'abord, que deux minutes pour la question de l'historicité.
Pour l'émission, nous avançons petit à petit, le temps passe très vite.
Oui, ce sont des juifs pieux, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ont raconté des craques, oui. qu'ils étaient menteurs. Ne pas mentir, c'est le 9e commandement, c'est quelque chose de très important pour eux. Un argument essentiel pour moi, c'est la psychologie collective. C'est-à-dire, enfin, d'abord, la cohérence des institutions. Il n'y a pas d'erreur par rapport à ce qu'étaient les institutions romaines en Palestine à ce moment-là. Il n'y a que les miracles qui peuvent poser des problèmes. Mais vous venez de me dire que nous n'aurons pas le temps d'en parler. Non. Il reste que, quand vous regardez la mécanique sociale et politique qui se met en place jusqu'à la crucifixion, la réaction des gens, y compris des apôtres qui s'échappent, oui. y compris ou qui font des malentendus sur tel ou tel mot, vous dites que tout ça est très humain. C'est peut-être l'avantage que j'ai d'avoir un peu fréquenté les affaires publiques, vous l'avez oui. rappelé, c'est que je vois bien que tout ça, ça correspond à la vérité. Je dirais que ces évangélistes, s'il n'y a pas raconté la vie de Jésus, ils auraient été d'excellents psychologues, ils auraient été d'excellents sociologues de la politique. Alors les uns disent, ils parlent entre eux, les uns disent oui, c'est le Messie, d'autres disent non. On a entendu dire qu'il allait partir, on ne sait pas où il va partir. Et puis, vous avez la foule qui est divisée, manifestement divisée. Il y a un camp qui est pour Jésus et un camp qui est contre Jésus. Oui. Et le camp qui est pour Jésus, vous le trouvez le jour des rameaux. Et celui qui est contre Jésus, qui est beaucoup plus restreint, d'ailleurs, ce sont les grands prêtres et les pharisiens, mais qui ont beaucoup de domestiques, beaucoup de monde autour d'eux, qui peuvent les ramener. Ce sont ceux qui crient, qui appellent à sa mise à mort.
Oui, oui.
Enfin, globalement, j'ai tout de même un sentiment de vraisemblance et de vérité.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours trop court. C'est bien triste, mais nous continuerons la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup Roland Hureau et merci Justina. À la semaine prochaine.